RMC, les experts F1.
Et on va donc revenir sur ce Grand Prix de Hongrie. Jean-Luc Roy avec moi.
Oui, absolument.
Bonsoir, Martial, Jean-Luc.
Bonsoir, Martial.
Patrick
bonsoir à
Tambay
tous.
Qui est là, bien sûr. Salut Patrick.
Bonsoir Martial.
Et Antoine Arlot à Budapest. Bonsoir Antoine.
Bonsoir messieurs.
Avec une course complètement folle, on va dire, aujourd'hui, avec à l'arrivée déjà le podium. C'est surprenant quand on voit
Grosse
comment était composée la grille. C'est sur victoire de Daniel Ricciardo devant Alonso et Hamilton. Ensuite, on a Nico Rosberg qui était parti en pole. Massa à la cinquième place, Raikkonen sixième, Vettel septième, Bottas huitième. Le français Jean-Éric Vergne à la neuvième place, Button dixième. Ça, c'est pour ceux qui ont marqué des points. Et puis, les autres français, Jules Bianchi à la quinzième place et Romain Grosjean qui s'est arrêté sur une sortie de piste avec beaucoup d'accidents. D'ailleurs, c'est vrai que Jean-Luc, on a eu un Grand Prix très animé, la pluie, les accidents et les dépassements. On s'est régalé en fait.
Ben voilà, en fait le scénario, si on y rajoute un peu d'eau comme ça, ça modifie beaucoup de choses et notamment les stratégies. Et puis après, effectivement, il y a ceux qui se sentent plus à l'aise et ceux qui sont un peu moins à l'aise. Il y a ceux qui partent de derrière et paradoxalement on voit la remontée de Lewis Hamilton qui pourtant part également en tête à queue. Donc tu le disais, un Grand Prix fou. Et oui, part en tête à queue dans le premier tour et termine sur le podium. Non, c'est vrai que là on a été servi du début jusqu'à la fin puisque le vainqueur n'a été décidé quasiment que dans le dernier tour.
Alors justement, Daniel Ricciardo qui double, qui obtient cette première place à deux tours de l'arrivée en doublant Alonso. On va l'écouter, le vainqueur de ce Grand Prix de Hongrie. C'est sa deuxième victoire en Grand Prix.
Je savoure autant que la première fois. La première voiture de sécurité a joué contre nous. Ça ne nous a pas vraiment aidé. Il a fallu beaucoup dépasser pour remonter. J'ai pris beaucoup de plaisir, en particulier dans les derniers tours. Il fallait que je dépasse très vite. J'ai pris des risques et ça a été fait.
Voilà, Daniel Ricciardo, le vainqueur de ce Grand Prix de Hongrie. Patrick, il est costaud le garçon quand même, hein.
Oui, une victoire de grande valeur qui le pose maintenant comme un pilote très très sérieux. C'était déjà le cas, mais c'était un espoir. Maintenant, c'est un des patrons de la Formule 1 après une course vraiment remarquable de vista, de tactique. D'ailleurs, ils étaient tous à féliciter sur le podium parce qu'ils se sont tous donnés à 100%. C'était vraiment un Grand Prix d'une intensité très 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 forte.
Alors, on a eu aussi, comme chaque course, un petit fait d'armes chez Mercedes. Alors, souvent, on a Rosberg qui part devant, loin devant. Là, Rosberg, Antoine, qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, quand la voiture de sécurité est sortie. Lui, il était déjà passé et du coup, ça l'a fait reculer dans le classement.
Voilà, exactement. Il est bien parti en tête. Il avait même très largement pris la tête parce qu'au bout de quelques tours, il avait déjà 5 ou 6 secondes d'avance. Mais il y a eu cette voiture de sécurité. Donc, tout le monde a décidé de repasser par la voie descendante parce qu'ils avaient des pneumatiques pour la pluie, des pneumatiques intermédiaires et que la piste était en train de s'assécher. Donc, ils sont repassés par les stands pour mettre les pneumatiques lisses. Et malheureusement pour Nico Rosberg, c'est tombé au mauvais moment. Et donc, lui, il s'est retrouvé dans les derniers à y passer et donc il a perdu pas mal de positions et ça évidemment ça a été un des tournants de ce Grand Prix, un tournant malheureux on va dire pour lui. Donc derrière il a fallu cravacher et surtout être très bon au niveau de la stratégie. Ça a été un Grand Prix où les stratèges ont été en première ligne.
Les quatre premiers d'ailleurs ont été à ce moment-là handicapés par la voiture de sécurité. C'est Ricciardo qui est rentré le premier et c'est lui qui ressort avantagé.
Et c'est lui qui s'en est le mieux sorti, c'est vrai au niveau stratégie. Nico Rosberg, on va l'entendre juste après la course, c'était à ton micro Antoine, et il va nous raconter notamment la fin de course avec son coéquipier Lewis Hamilton qui était juste devant lui.
C'était une course très 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 compliquée. Ça m'énerve le dernier tour parce que il y avait une petite opportunité, mon coéquipier s'est loupé, j'ai pas réussi à le faire et ça m'ennuie. Il faut accepter maintenant et en avant. De toute façon, il y a encore les points d'avantage dans le championnat. Maintenant, un peu de temps de partir à l'attaque après à Spa.
Nico, quand on a demandé à Lewis de te laisser passer, il a répondu je vais pas ralentir pour Nico. Est-ce que ça vous agace quand même d'avoir ce type de réponse?
Je sais pas, j'ai pas entendu ça moi-même, donc il faut que on discute ça dans l'équipe, c'est mieux.
Voilà, Nico Rosberg, Antoine, et Jean-Luc, il veut pas en dire devant les journalistes, il préfère rester politiquement correct.
Hein, écoutez, évidemment, ça fait moins de
très bien élevé ce garçon.
Voilà, moins de grains à moudre pour nous, mais je pense qu'il a raison de ne pas répondre à Antoine, évidemment, mais de ne pas répliquer.
Je crois qu'il était surpris par la question. Il le savait pas.
Aux polémiques qui sont soulevées par Lewis régulièrement, et c'est sur la piste qu'on règle les comptes effectivement.
Et Antoine, il n'y a pas de polémique apparemment chez Mercedes hein, avec ce qui s'est dit après la course.
Oui, en fait, bah, disons que Lewis Hamilton a dit en conférence de presse, parce qu'ils font plusieurs points presse, et la première chose qu'il a dit en conférence de presse, c'est qu'il a dit « J'ai été choqué que l'équipe me demande de laisser passer Nico, parce que je savais très bien que si je le laissais passer, eh bien, je, voilà, il était sûr de terminer devant moi, il n'y avait plus aucune chance pour moi de le rattraper. » Après, il a plus voulu le redire quand il a eu d'autres médias, il a dit « Non, mais on va en parler entre nous, etc. » Et du côté de chez Mercedes, effectivement, que ce soit Toto Wolff ou Niki Lauda, que j'ai entendu à la fin de la course, il a dit, Niki Lauda a dit il a bien fait de pas laisser passer Nico, j'aurais fait la même chose, c'est ce qu'il a dit. Mais, et Toto Wolff est à peu près sur la même longueur d'onde.
Au niveau de l'équipe, il y a un point de vue positif. Ils étaient tous les deux sur des stratégies différentes. Et l'équipe voulait mettre tous ses œufs dans des paniers différents, de façon à pouvoir être sûr qu'il y en ait un qui fonctionne. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont demandé à Rosberg de passer, ou ont demandé à Hamilton de le laisser passer, parce qu'il était sur une stratégie différente. Pas pour le laisser gagner. Vous me suivez ?
Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est clair. Mais oui, comme Nico était plus rapide dans les stints, entre guillemets, s'il avait bloqué, il condamnait la stratégie de Nico, voilà, en clair.
Et sur le dernier tour, Jean-Luc, j'ai bien cru quand même qu'ils allaient se harponner les deux, parce que Rosberg revenait comme une balle, sur Hamilton.
Écoute, il revenait comme un avion, il leur a repris entre 2,5 secondes et 3 secondes au tour, et puis pas qu'une fois, ça a duré 10 tours, l'histoire. Donc, il a comblé son handicap. Maintenant, le premier sur lequel il est tombé, effectivement, c'est son équipier. Alors, Hamilton lui a pas fait de cadeau, on va dire, bon, il l'a pas, c'est pas non plus une agression, mais enfin il l'a poussé dehors proprement dans la descente. Je pense que s'il était tombé Nico sur effectivement Ricardo ou sur Alonso, ça se serait peut-être passé différemment. Mais là, je crois qu'évidemment, ce qu'on leur a demandé avant tout, c'était d'éviter l'accrochage entre eux.
Patrick, t'es d'accord avec Jean-Luc sur le fait que Rosberg se soit un peu freiné dans son attaque, on va dire, dans ce dernier tour? Le fait que ce soit une Mercedes devant lui.
Je pense que son erreur est venue. Il faudrait regarder tous les tours consécutifs. Il y a eu un passage, il y a eu un ventre mou, et je pense qu'il a pris du retard à ce moment-là. C'est un petit peu curieux. C'est à peu près la même chose pour tout le monde. Il y a eu une différence de rythme. Ils se sont ils étaient un petit peu dans l'attente de savoir comment allaient se comporter les pneus sur la fin de course, et ils se sont lâchés, ils se sont mis sur leur stratégie finale. C'est vrai pour Ricciardo, c'est vrai pour Rosberg, a vraiment avancé dans les 5 derniers tours.
Alors, est-ce qu'il y aura des séquelles sur la suite de la saison dans leur relation?
Oui.
Tu penses, Patrick?
Ah oui, moi je pense que là ça va commencer à devenir très compliqué à gérer.
Je suis pas sûr qu'ils se parlent énormément de toute façon les deux. Et d'ailleurs, une petite chose que vous avez peut-être remarqué aussi, mais dans les interviews, Nico Rosberg ne dit plus Lewis quand il parle de Lewis Hamilton, il dit mon coéquipier, il ne le cite plus. Et c'est vrai que de toute façon, ça fait déjà quelques semaines, hein, on n'est pas dupes, on avait bien compris qu'il s'était jamais vraiment
rapproché. Voilà,
et on attend le clash presque avec impatience, en fait.
Je suis pas sûr qu'il y en ait, parce que je sais pas ce qu'en pense Jean-Luc et Patrick, mais Nico Rosberg, voilà, il sait qu'il est l'emblème de Mercedes, pilote allemand chez Mercedes, il vient de prolonger son contrat. Il ait envie de clasher.
Puis je pense, pour l'image de Mercedes, effectivement, ça ferait extrêmement désordre. Donc là, c'est une usine. C'est pas McLaren comme à d'autres époques, etc. C'est vraiment une usine, une marque qui a une image. Et d'ailleurs, c'est pour ça les ruptures mécaniques à répétition qui affectent en l'occurrence Hamilton, ça affecte la marque. Donc ceux qui peuvent penser que c'est pas volontaire, mais enfin bon, qu'on sert moins bien l'un que l'autre, c'est une hérésie, parce que Mercedes ne peut pas se lancer sur cette voie-là. C'est une folie.
Alors on a couru 11 Grands Prix. Il y a 11 points d'écart entre les deux, ça veut dire que...
Un par Grand Prix.
Un par Grand Prix, on verra bien comment ça se passe. On pourrait revenir aussi sur la belle perf de Fernando Alonso, sur sa Ferrari. On va dire, Patrick, qu'il a tiré, comme souvent, le maximum de sa voiture.
Oui, je dois dire qu'ils sont probablement tous à mettre dans le même panier, dans leur engagement, dans leur volonté d'essayer de faire du mieux possible. Ils se sont tous déchirés, que ce soit les trois premiers sur le podium et ensuite Rosberg en quatrième position jusqu'à Jean-Éric Vergne. Ils se sont tous déchirés, c'était un Grand Prix d'une intensité total, vraiment à tous les niveaux. C'est ce qui m'a marqué. J'en avais pas vu un avec autant d'engagement que cela depuis longtemps. C'était un très très beau Grand Prix.
Ouais, moi, je vous écoutais cet après-midi, on s'est régalé, hein, c'est clair.
Ah ben, on s'est lâché, là, ça fait plaisir. Quand on termine rincé comme ça, tu sais, c'est une bonne nouvelle. Non, puis je vais oser le dire, hein, la réglementation est tellement contraignante, encore une fois, et les pneus, c'est tellement pénalisant de les gérer et tout. Là, ils se sont lâchés, ils ont attaqué comme des malades. Mais c'est ça qu'on aime dans le sport automobile, nom d'un chien. Quand on pense qu'on est obligé maintenant de créer une commission pour rendre la Formule 1 spectaculaire, mais on marche sur la tête.
Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, aujourd'hui, c'était très spectaculaire. Il y a un Français qui a bien marché, qu'on a vu devant, Jean-Éric Vergne, il a même été à la deuxième place à un moment de ce Grand Prix. Il termine finalement 9e avec sa Toro Rosso. On va l'écouter juste après l'arrivée.
C'était un super Grand Prix, je pense que je rêvais pas, je savais que j'allais pas terminer sur le podium, mais c'était quand même bien de se battre avec tout le monde et de montrer que j'étais là. Après, je pense que j'ai pas encore la voiture pour me battre avec eux jusqu'à la fin du Grand Prix, et malheureusement on l'a vu, donc je pense qu'on a vraiment fait un bon Grand Prix. J'ai eu zéro erreur de fait, simplement voilà, un peu trop lent, donc il va falloir qu'on travaille pour essayer d'améliorer les performances de la voiture en course. J'étais vraiment à 110% et honnêtement je faisais rien de différent que lorsque je me bats pour une 13e place. Simplement je pense que les caméras sont un peu plus braquées sur les voitures de devant, donc ça me donne envie de me battre plus souvent devant.
Voilà, Jean-Éric Vergne, 9e de ce Grand Prix. Antoine, c'est vrai qu'il a fait une belle course et on a même cru à un moment que ça pourrait mieux tourner presque pour lui. Hein.
Oui, alors après c'est vrai qu'avec toutes ces histoires de stratégie, et puis il a quand même qu'une Toro Rosso entre les mains, donc c'était compliqué, mais il a piloté au moment où justement, comme il le dit, il avait les caméras braquées sur lui. Bah, il a fait aucune erreur, il avait derrière lui alors deux têtes, hein, je suis plus bien, mais je crois qu'il avait genre Alonso, il avait les Mercedes, enfin il avait vraiment,
les cadors, quoi.
Il avait les cadors derrière lui, il avait des pilotes bien plus expérimentés avec lui, avec des voitures bien plus performantes, et il a tenu, hein, il a pas fait d'erreur, donc ça c'était impressionnant. Je pense que c'est important aussi de marquer des points, en tout cas dans les esprits.
Patrick, Jean-Éric Vergne, il est tout proche, j'allais dire, c'est le premier derrière les grosses écuries, on va dire.
Bah, il a appris encore quelque chose d'important, je pense, aujourd'hui, dans la cadence, dans l'engagement qu'il faut donner, qu'il faut faire pour rouler avec les garçons, avec ces mecs-là devant. Il y a vraiment une quand il dit 110%, je dirais que c'est même probablement encore plus, et il faut être capable de le faire pendant 70 tours. C'est un engagement. On a eu la démonstration aujourd'hui de la difficulté d'être un pilote de Grand Prix et d'obtenir des résultats, parce que tout le monde est à donf. Oh. Et
oui, Jean-Luc. Oui, Patrick, pour rebondir exactement sur ce que tu veux dire, c'était un Grand Prix piégeux. C'était facile, la preuve, les meilleurs presque se sont fait piéger, même Hamilton, même Vettel qui part en tête à queue. Donc on peut dire que quand des champions du monde
ils
de ce calibre-là...
Ils s'en est bien récupérés.
Exactement. Et ben voilà, je pense qu'il y en a même à la limite pas un, peut-être, de tous ceux qui ont terminé, qui s'est pas fait une chaleur monumentale.
Rosberg en début de Grand Prix.
Exactement, Patrick. Donc ça veut dire que là, eh bien, Vergne, il a fait un Grand Prix du niveau des meilleurs, des champions du monde. Mm-hmm. Ben, c'est absolument génial. Voilà, il s'est révélé au grand jour, si besoin était, et comme il dit, il a eu les caméras braquées sur lui aussi.
Et Patrick, je voulais avoir ton avis sur la sortie de Romain Grosjean au moment où il y avait la voiture de sécurité sur la piste. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est une erreur du pilote ou c'est de la malchance?
Ils se sont fait piéger, ils sont plusieurs à s'être fait piéger. Là, c'est une faute d'une fraction de seconde, c'est dire à quel point c'est difficile de maintenir ces monoplaces, ces autos en piste dans des conditions d'adhérence qu'il y avait cet après-midi. Voilà, les pneus pas assez chauds, de l'humidité sur la bordure, de la puissance qui est venue d'un coup, la monoplace difficile à piloter, tout un ensemble de choses qui démontrent qu'il faut vraiment être concentré à 150% pour les maintenir en piste. C'est pas de la tarte.
Et ça fait 5 grands prix de suite pour Romain sans marquer de points.
Eh oui, là ça fait beaucoup. C'est vrai que ce que Patrick résume bien sûr, c'est que sous régime de safety car, eh bien toute la mécanique, donc les freins aussi et les pneumatiques en l'occurrence, ne sont pas maintenus en température. Et puis bon, forcément un poil déconcentré, parce qu'évidemment on n'est pas là à cette vitesse là comme en course. Et voilà, et puis après un tout petit écart sur une bande blanche
et on se l'est mort.
Et on se l'est mort, effectivement.
Bon, Antoine, la F1 est en vacances là.
Ah oui, la F1 est en vacances.
Ah oui.
Elle va revenir fin août, mais c'est vrai que la F1 est en vacances. Tout le monde va rentrer. D'ailleurs, elle est juste en face de moi. Je suis devant la voie des stands. Il y a plein de camions de poids lourds qui sont en train de démonter le plus vite possible pour partir très vite en vacances. Et on va rentrer à l'usine et ils sont obligés de toute façon de fermer pendant deux semaines. Ils sont obligés de fermer l'usine, donc c'est déjà
officiellement.
Ça. Officiellement. Et même les boîtes mail.
Ils travailleront derrière leur
même les boîtes mail sont désactivées. Il n'y a que le téléphone qui peut marcher.
Très bien. Et prochain Grand Prix, c'est en Belgique, hein?
Exactement, le 24 août.
Voilà. C'est un gros morceau.
Grand Prix de Spa.
Circuit fantastique, ouais. Un des plus beaux du championnat du monde.
Merci, messieurs.
Avec plaisir.
On s'est régalé aujourd'hui pour la F1. À bientôt, Patrick. Salut, Jean-Luc. Salut, Antoine.
Salut à tous.
À bientôt.